Alors, nous, on va présenter un logiciel open source donc, qui s'appelle MTSH, le Shell Help. Alors, c'est un logiciel qui a été commencé au laboratoire de système de l'UQA. Donc, c'est un laboratoire donc, qui fait du développement de système et de la sécurité. Donc, ça a été commencé comme un projet étudiant qui a été poursuivi. Donc, je me présente aussi, je suis Julien Manet.
Je suis Sébastien. Ça marche. Je suis Sébastien Roy et je suis développeur dans la société MTSH.
Alors, MTSH. Un FSH dans sa version stable, c'est-à-dire la version 0.4, la dernière c'est la 0.43b, c'est un logiciel qui a été intégré à FreeBSD et NetBSD. La dernière version c'est la version 0.5b qui est disponible pour Linux et qui est nettement plus complète, qui est interactive contrairement à la précédente version. Donc si vous avez quelque chose à tester, je vous engage à le tester sur la toute dernière version. C'est-à-dire la 0.5b. Alors, donc, les motivations d'FSH, c'était que les outils disponibles de binary et de manipulation binaire sous Unix n'étaient pas suffisants pour ce qu'on voulait faire. Donc, en l'occurrence, le développement sans source, alors on va voir que ça se subdivise en deux problématiques, c'est-à-dire la résidence. Alors, la résidence, c'est et l'étude de l'injection de code excédentaire dans un binaire. Et l'interception, c'est donc, comme son nom l'indique, la redirection de fonctions et plus généralement de fonctionnalités dans un programme. La protection système, ce que j'appelle la SLR, donc Shared Space Layout Randomization, donc c'est une protection qui consiste à déplacer le binaire en mémoire et tout ça de manière statique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chute de performance, et c'est une protection qui vient en cumul d'autres protections comme les protections non exécutables, par exemple PATH. Également le vide binaire.
Par exemple, dans le type de vulnérabilité des logiciels sans source, par exemple les logiciels Microsoft ou les logiciels propriétaires, on a besoin aussi de pouvoir savoir les manipulations de données, comment elles sont effectuées.
Alors, comme on disait, les outils disponibles, en l'occurrence, c'est l'outil GNU, BFD, donc qui veut dire Binary Format Descriptor, et LibOpCode, donc LibOpCode c'est la librairie de disassembly qui est très portable, qui est très bien pour produire du disassembly, qui supporte un grand nombre d'architectures. Malheureusement, c'est un peu trop codé à l'arrache, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on peut que faire du disassembly avec, et on sait assez difficilement, développable pour rajouter quelque chose par-dessus. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord un logiciel qui est un interpréteur de commande, donc c'est un shell, dans lequel on va pouvoir manipuler directement les binaires et aussi interpréter le code. Pour cela, on a recodé certains composants, notamment une librairie bas-niveau de manipulation ELF et une librairie bas-niveau de manipulation d'opcode assembleur, pour faire notamment du traçage de flux de contrôle, c'est-à-dire tracer le chemin d'exécution du programme et du traçage de flux de données, c'est-à-dire, comme disait Sébastien, voir l'interaction entre les variables du programme. Alors, le développement sans source. Bien sûr, ça permet de rajouter des fonctionnalités, mais aussi de les détourner. Donc, alors, il y a des utilisations autant autant de sécurité que de mapping, on va dire ça comme ça. Donc bien sûr, on pense au cheval 3. On va voir qu'un cheval de 3 dans SSH est possible avec une dizaine de lignes de script FSH, parce que c'est un outil qui se script. Et en 10 lignes de script, on peut détourner les fonctions, par exemple les fonctions qui vont encrypter le pass en fonction du pass clair. On peut injecter du code C. En fait, on va coder notre code C, on va le compiler et on va injecter le module dans l'exécutable directement. Également, j'ai mis un point d'interrogation pour host-based IDS, parce que c'est pas une utilisation fréquente, mais je pense que ça pourrait être utilisé, par exemple, pour filtrer certaines fonctions. C'est-à-dire quand on sait, par exemple, quand on n'a pas de patch disponible très rapidement d'un vendeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre propre fonction, notre propre module, rediriger la fonction vulnérable, par exemple, de notre propre fonction, et faire une vérification de la fonction pour voir si le bug ne va pas être déclenché, et donc éventuellement arrêter le programme, ou alors refuser la connexion, fermer la connexion, etc. La résidence, donc, comme on le disait, c'est l'étude de l'injection de code d'une excédentaire, l'infection, l'étude du fond de Jimmy, l'étude du détournement des fonctionnalités. La protection système. Alors, la SLR, c'est une protection qui permet d'éviter les attaques par prédiction d'adresse. Alors, ce que j'appelle les attaques par prédiction d'adresse, c'est notamment les buffer overflow par return to libc ou return to PLD. Alors, ça peut paraître compliqué à certains c'est très technique, mais ça, en fait, c'est une technique qui permet d'exécuter le code qui est déjà présent dans le processus plutôt que dans l'injecter. Donc là, on va voir que cette attaque nécessite une prédiction d'adresse du processus, et la protection ASLR va permettre de rendre ces adresses plus aléatoires. C'est-à-dire qu'on va déplacer le binaire en mémoire avant de l'exécuter. Tout ça est fait statiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lancer le programme pour faire ça, et aussi il n'y a aucune perte de performance, contrairement à l'ASLR de PAX, par exemple, qui propose un ASLR dynamique et qui fait chuter la performance assez sévèrement. Notamment, pour citer l'option RendExec, qui fait chuter la performance de 200% lors d'une recompilation du kernel. Donc c'est pas une protection vraiment utilisable en production, c'est quelque chose de plus expérimental, mais qui marche assez bien, je vous le dis.
Donc lors de l'audit binaire, ce que je disais tout à l'heure, il y a une nécessité de comprendre les différentes manipulations de données qui sont effectuées afin de pouvoir savoir comment elles sont manipulées, dans quel cas certaines données vont être utilisées. Il y a plusieurs outils qui sont utilisés dans le cadre de cette étude, soit des désassembleurs pour une analyse statique, soit éventuellement des désassembleurs, des debuggers en cas d'une analyse dynamique. Et l'autre piste qui est menée dans le cadre des recherches de vulnérabilité, c'est parfois le lancement d'un fichier corps, lancer un processus pour plante. À partir de là, les fichiers corps contiennent en plus du binaire, peuvent contenir des données qui est capable de récupérer par la suite, par le passé, ça a été utilisé pour récupérer par exemple des fichiers shadow. Et on récupère aussi notamment les autres processus à l'instant même où ils plantent, c'est-à-dire l'instruction qui génère le plantage, le contenu des registres, l'état de la mémoire. Et à partir de là, on peut mener une analyse plus profonde afin d'étudier les chemins qui ont été empruntés et de savoir quelle a été la source de la vulnérabilité.
Alors, on va commencer par un petit rappel sur le format ELF. Donc, ELF, ça veut dire Executable on a Linking Format. Donc, c'est le format exécutable par défaut sous Unix. Donc, c'est un format qui tend à être installé et qui tend à devenir le format standard sur beaucoup d'Unix. Donc je citerai Linux, FreeBSD, NetBSD, Solaris, Irix. Donc c'est effectivement, ça nous a paru très important de se concentrer sur le format ELF, plutôt que BSD par exemple, qui est axé sur la translation binaire, donc qui supporte un grand nombre de formats exécutables, mais qui ne va pas vraiment faire l'analyse sémantique sur le format lui-même. Donc là, on peut voir on peut voir l'entête F, donc c'est les 52 premiers octets de chaque binaire. Donc le champ intéressant notamment, c'est le point d'entrée, donc c'est un peu comme le PE. Hein. Et par défaut, le point d'entrée compte sur la première instruction de la section point texte. Donc la section point texte, c'est la section de code, et la première instruction appartient généralement à la fonction underscore start. Donc la fonction underscore start, c'est la première fonction qui est exécutée dans le processus. Donc on va voir que les données dans un binaire F, elles sont indexées par une double perspective. Alors on a la perspective par section. Alors ça, c'est la perspective utilisée par le linker, notamment pour fusionner certains objets et en faire des exécutables. Donc il y a trois types principaux, si on ne compte pas les fichiers corps. Il y a les exécutables, donc ce sont des fichiers qui sont directement exécutables, comme on en dit. C'est des fichiers de type ET en master exec. Il y a les librairies. Alors les librairies, elles ne sont pas exécutables telles quelles, mais on a besoin de les reloger. Les reloger, ça veut dire patcher le code pour que les références se trouvent et soient exactes. En l'occurrence, une librairie peut être mappée n'importe où en mémoire, contrairement à un binaire. C'est pour ça que la relocation est indispensable pour une librairie. Parce que toutes les références par défaut sont nulles dans la librairie. Au contraire de la perspective par section, donc, de l'éditeur de liens, on va trouver la perspective du système. Donc là, c'est une perspective par segment. La perspective par segment, elle est nettement plus simple. Elle va permettre au système rapidement d'aller loader le binaire en mémoire par très peu de parsing de tables. Donc on a deux tables différentes qu'on va désigner par la suite par SHT, donc Section Header Table, et PHT, Program Header Table. Donc, j'insiste bien sur le fait que les mêmes données sont indexées par les deux tables. Ce sont seulement deux perspectives différentes. Même, on voit bien au fond, la liste des sections n'a pas de problème. J'espère.
En tout cas, voilà,
ça c'est une table des sections. J'espère qu'elle est assez grosse parce qu'il y a pour les bouchons. Donc on peut voir qu'il y a un nombre assez impressionnant de sections. En général, il y en a entre 20 et 30. Donc on peut voir des fonctions qui sont accessibles en écriture. Donc c'est le petit W que vous voyez. Le A signifie allocatable, ça veut dire que la section va être mappée en mémoire. Et les sections qui n'ont pas de droit, ce sont les sections non mappées. Les sections non mappées, donc en général, ce sont des sections qui contiennent soit des tables de symboles ou des tables de noms de symboles, ou encore des tables d'information. Notamment, on verra que dans FSH, on insère des sections non mappées pour des informations de blocs, ce qui nous permet de ne pas recalculer les informations de blocs à chaque fois. Donc quelques sections. Alors les sections .dinsim, .dinstr, c'est la table des symboles dynamiques. La table des symboles dynamiques, on va revenir par la suite dessus. Les sections .rel, donc ce sont les fameuses sections d'entrée de relocation. Donc ça, ce sont les sections qui vont lister tous les endroits dans le binaire qu'on doit patcher avant de lancer le programme. En l'occurrence, dans le fichier de type ET-exec, c'est-à-dire les binaires donc, qui n'ont pas besoin d'être relogés avant d'être exécutés, ce sont des sections qui contiennent les tables de relocation pour la relocation en runtime. On va voir un peu plus en détail ce que c'est. Donc on a deux étapes de relocation. On a une étape de relocation qui se fait avant l'exécution. Donc ça c'est pour les librairies. Et pour les librairies et les exécutables, on a une étape de relocation qui va se faire durant l'exécution. Parce qu'il y a certaines adresses qu'on ne peut pas prédire statiquement. C'est-à-dire qu'on est obligé de savoir où vont être les librairies pour pouvoir les appeler. Par exemple, quand on appelle printf, on va voir que par défaut, on ne connaît pas l'adresse de printf. Donc on va passer par une fonction intermédiaire. Une entrée, plus précisément, une entrée dans la section .plt. Donc les sections .text, .fini, .ini, tout ça, ce sont des sections de code. On va détailler un peu plus par la suite. Et toutes les sections avec le flag W sont des sections de données. Pour finir sur cette perspective, la section .dss qui est la section des données non initialisées. Donc ça c'est intéressant parce qu'elle n'est pas physiquement dans le fichier, mais elle possède tout de même une entête dans la table des sections. Pourquoi elle n'est pas physiquement dans le fichier? Parce que les données sont non initialisées. Donc ça serait perdre de la place que de stocker des données non initialisées. Donc en fait, on indique seulement la taille des données non initialisées par une entrée dans la table des sections pour la section .dss, et on indique sa taille, en l'occurrence dans le binaire 689P. Donc ça c'est la deuxième perspective, c'est-à-dire la perspective du système, celle dont je parlais tout à l'heure. Donc cette fois, c'est le noyau et l'éditeur de liens dynamiques qui va utiliser cette perspective. En l'occurrence, l'implémentation, comment ça se passe, c'est une boucle qui itère donc, sur cette table et qui pour chaque segment de type PT underscore load, comme vous pouvez voir qu'il y en a deux dans ce binaire, donc il y en a une pour le code. On a un pour le code, c'est-à-dire le segment en R-X, et une pour les données, c'est-à-dire le segment en RW-. Donc là, on peut remarquer que le code ne va pas être modifiable dans le processus. Je ne vais pas détailler le reste des segments, sinon on s'éteindra un petit peu tout le monde, je pense. Donc la relocation, on en a parlé tout à l'heure. Donc la relocation, c'est une étape qui est fortement dépendante de l'architecture. Pourquoi? Parce que les types de relocation sont différents selon l'architecture. En l'occurrence, il y en a 11 sur Intel et 56 sur Spark. Pourquoi autant sur Spark? Parce qu'il y a une compatibilité avec les anciennes versions d'architecture. Donc on va avoir des relocations qui s'effectuent sur 8 bits, d'autres sur 16 bits, d'autres sur 32 bits. Donc, je ne vais pas détailler tous les types de relocations, sinon on ne s'en sort plus. Mais ce que vous voyez là, c'est une entrée de relocation. Donc une entrée de relocation, en fait, une table de relocation, voilà, donc dans les sections .rel, les tables de relocation, ce sont des tableaux de ce type d'entrée.
Je vais présenter le fonctionnement du processeur 386, puisque c'est actuellement le seul sur lequel nous travaillons. Donc l'assembleur, pour rappel, c'est le langage du processeur. C'est un langage, c'est le langage le plus bas niveau accessible au programmeur. De base, il permet simplement des opérations arithmétiques et d'effectuer des déplacements entre la mémoire et le processeur. Au sein du processeur, toutes les valeurs sur lesquelles on travaille sont stockées dans des accumulateurs qui sont des registres qui sont en profondément appelés registres. Sur l'architecture 386, on rencontre 8, EAX, OCX, EDX, OBX, ESP, ESI, EDP et EDI. Chaque registre peut être utilisé hormis ESP indépendamment par le programmeur comme il veut. Certaines conventions font que, en général, les registres sont utilisés à un rôle particulier. Par exemple, ESI et EDI sont utilisés pour les manipulations chaîne. EAX permet de stocker la valeur de réseau d'une fonction. ESP permet de manipuler la file. On a deux autres registres qui sont très importants, qui sont le registre OIP, qui contient le pointeur de file. C'est ce registre qui contiendra au cours de l'exécution. Le pointeur d'exécution. Donc le pointeur d'exécution contient à chaque, pendant l'exécution d'un programme, l'adresse courante de l'instruction qui va être exécutée. Donc, juste pour vous expliquer là-dessus, donc EIP c'est le registre, c'est le pointeur d'instruction et ESP le pointeur de file. Donc EIP c'est un registre qui va contenir, comme on l'a dit Sébastien, l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.
Donc en dessous j'ai mis trois instructions comme ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble, on a vu déjà parlé dans la présentation d'avant. Donc un pool, un add, un call. La puite, c'est l'espace qui va servir pour tout ce qui est allocation dynamique de mémoire. C'est des variables locales, des arguments de fonction. ESP, comme j'ai expliqué précédemment, et le registre qui sert à manipuler cette file. Donc à chaque fois qu'on va empiler une valeur sur la file, ESP va être décrémenté de 4, la valeur stockée en mémoire. Et inversement, quand on toque une valeur de la file, la valeur est retournée dans l'opérant, soit en mémoire, soit dans un registre, et ESP est incrémenté de 4. Et l'appli, par ailleurs, sert aussi à conserver toutes les informations sur le contrôle flow. Donc, les adresses de retour des fonctions, c'est là que proviennent de nombreuses vulnérabilités. Donc, le format des instructions. Donc, les instructions se composent principalement d'un mnémonique, le mnémonique désignant en général permettant de reconnaître facilement l'instruction, enfin, l'opération effectuée par l'instruction, add, move, sub, call, une liste que j'ai un peu listée après. Donc, ensuite, chaque instruction peut disposer d'une ou plusieurs opérandes en fonction des opérations qui vont être effectuées. Ces opérandes peuvent être des registres ou alors des références à la mémoire, des valeurs immédiates et plusieurs autres types. La majorité des instructions travaillent avec les registres généraux, c'est-à-dire les registres que j'avais cités précédemment, de EAX, EDX, OCX, EDX, ST, EDX, SI et EDI. EIP, qui est le registre contenant l'instruction, l'adresse de l'instruction exécutée, lui peut être manipulée que par certaines instructions, qui sont les instructions call, REC, les instructions de branchement. Donc, ça, c'est les instructions les plus couramment utilisées. Il faut dire que quand on programme en assembleur, on peut vraiment sculpter un jeu d'instructions excessivement réduit malgré la richesse du jeu. Malgré la richesse du jeu d'instructions, on peut sculpter vraiment une dizaine d'instructions pour développer entièrement un programme en assembleur. Donc là, j'ai listé les différentes instructions qu'on peut trouver avec les opérants qui sont en cours. Il y a une chose à noter, vous l'avez vu dans la présentation précédente de l'assembleur dans la syntaxe Intel. Sur les architectures Unix, c'est une syntaxe ATT qui est utilisée, qui est un petit peu différente, notamment sur l'ordre des opérants qui va être inversé ou la façon dont elles sont représentées dans un listing assembleur. Donc on ne va pas se prendre là-dessus, puisque je pense pas.
Donc pour faire un petit peu le vocabulaire, les opérandes, ce sont en quelque sorte les paramètres de l'instruction. Donc, pour prendre la première, vous voyez move, c'est destination. Donc, move, c'est la mnémonique. Et src, destination, ce sont les opérandes. Donc, un processus sous Unix. Donc là, je vais faire un petit rappel du chemin d'exécution d'un processus sous Unix. Pourquoi ? Parce que c'est une dimension dynamique que j'estime tout de même intéressante dans Reverse Engineering. Donc on peut voir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, que la première fonction exécutée, c'est la fonction underscore start. Donc il y a toute une étape de création du processus. Donc on va passer par la libc, on va exécuter les handlers de construction, ensuite on va exécuter le main, ensuite le programme s'exécute, donc c'est représenté par les petites. Et à la fin du programme, quand le programme s'exécute, même quand vous faites un retour, un return 0 par exemple dans le main, la libc va utiliser un exit pour terminer le processus. Donc lors de ce exit, il y a aussi toute une liste de tables qui contient des pointeurs. Et chaque pointeur est en potentiel fonction qui va être exécuté à la fin du processus. Donc, ce qui nous intéresse, comme on l'a dit, c'est l'interception. Donc il y a une interception statique. Ce que j'appelle interception statique, c'est l'interception des fonctions du binaire même. Donc contrairement à des interceptions au niveau kernel, on ne peut pas faire des systèmes qui vont modifier certains octets au début de la fonction et les restaurer par la suite, parce que comme on l'a vu dans la table des segments, on ne connaît pas accessible en écriture. Donc on ne peut pas modifier les fonctions à moins de passer par l'appel système mProtect. Alors mProtect, c'est un appel système qui justement permet de changer les droits de certaines zones mémoire dans le processus. Le problème et la raison pour laquelle on n'utilise pas mProtect, c'est que ça ne marche pas sur les environnements protégés par PAX. Pourquoi ? Parce que PAX renforce une protection de mProtect justement pour éviter qu'on mette des droits différents sur les zones qui ne devraient pas être exécutables, par exemple. Donc, pour intercepter les fonctions du binaire, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va modifier l'opérande des calls qui nous intéressent. Donc, on va voir qu'on a plusieurs types de calls, ce qui veut dire qu'on va être obligé de connaître le flux d'exécution complet d'un programme pour pouvoir détourner une fonction à chaque fois qu'elle est exécutée. Pourquoi ? Parce que si on modifie l'opérande d'une instruction call, la fonction va être détournée uniquement lorsqu'elle est appelée depuis ce call. Seulement, bien sûr, une fonction peut être appelée plusieurs endroits dans un processus. Donc, notre vision des choses, c'est que mieux vaut modifier l'opérant des calls qui nous intéressent pour intercepter les fonctions à certains endroits précis du processus. Ça, ce sont donc les types d'interceptions statiques, c'est-à-dire pour les fonctions qui sont internes au binaire, non pas les fonctions des librairies dont le binaire a besoin, mais les fonctions internes au binaire. Donc, contrairement à l'interception statique, on a l'interception dynamique. Alors, l'interception dynamique, au contraire, c'est le détournement des fonctions des librairies dont le binaire a besoin. Donc ça passe, la résolution d'adresse passe par un système assez complexe que je ne vais pas détailler de relocation au moment de l'exécution qui passe, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, par les sections .got et la section .plt. Ou sur SolarisSpark, par exemple, ça ne passe uniquement par la section .plt. Donc la section .got n'est pas utilisée, ou elle est utilisée mais pour seulement pour résoudre l'adresse des objets externes et non pas des fonctions externes. Que j'appelle les objets externes, ce sont donc les variables, par exemple les variables des librairies qui vont devoir être accédées depuis le programme même. Étant donné que les librairies peuvent être mappées n'importe où en mémoire, on a besoin de faire une résolution d'adresse au moment de l'exécution, parce qu'on ne peut pas savoir, le compilateur ne peut pas savoir à quelle adresse vont être mappées les fonctions et les variables des librairies. Et donc il ne peut pas inclure directement l'adresse en dur dans le programme. Donc on va voir que pour intercepter ces fonctions, par exemple, j'ai cité printf, on peut citer crypt, qui est un peu plus intéressante. Donc crypt, qui est la fonction qui va crypter un passant clair pour retourner une chaîne cryptée, donc en général c'est du DES ou du MD5. Juste un petit point, il y a une variable d'environnement qui s'appelle ldbindNow, et quand elle est mise à 1, toutes les entrées de la section .got sont renseignées avant que le programme s'exécute. Donc dans ce cas, on ne peut pas faire d'interception de fonctions externes en modifiant la section .got. Parce que toutes les entrées sont renseignées, donc le programme ne va pas rentrer dans le système de patch dynamique.
Donc je vais tenter l'analyse nécessite donc d'analyser les instructions assembleurs les unes après les autres dans un exécutable. Donc il faut, les instructions assembleurs sont codées sous forme de P. Donc chaque instruction peut être fixée d'une part par certains de P. Il y en a 11 en tout qui permettent de préfixer les instructions. Donc certains préfixes permettent d'adresser les opérands dans 16 ou 32 bits. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, quand le mot simple n'est pas encore protégé, tel adresser tous les opérants dans 16 bits, et ils vont conserver grâce à un préfixe cette compatibilité. Certains autres préfixes peuvent permettre de répéter des instructions, comme des instructions de copie de chaîne, ça va être des préfixes il y a d'autres préfixes qui permettent de loquer le processeur en SMP, et si ça ne nous intéresse pas. Donc au niveau de l'instruction, ça peut commencer par préfixe ou les autres codes. Donc quand on va les assembler, on va vérifier que les premiers bytes qu'on contient ne sont pas les préfixes. Ensuite, pour chaque EP qui va de 0x00 à 0x7f, chacun est associé à une ou à plusieurs instructions. Donc, une fois qu'on a désassemblé ce premier encode, en fonction de ce premier encode obtenu et d'instruction, il va y avoir plusieurs opérands. Donc pour certaines instructions, les opérands seront encodés directement dans l'instruction. Donc dans le sens premier OP, par exemple, toutes les instructions simples de type implémentation, décrémentation, push-pop sont implémentées de cette façon. Donc de 0x40 à 0x4f, vous allez avoir tous les types de la x sur x sur x, et ainsi de suite. De 0x50 à 0x5f, vous aurez tous les push, tous les pop, et les opérands sont directement intégrés. Pour d'autres instructions, dont les opérations sont plus complexes, elles vont être codées sur différentes manières, directement à la suite de l'instruction. Donc on va obtenir, donc, par exemple, l'instruction suivante, qui est un push. Le premier byte, qui est 0x68, permet de savoir qu'il s'agit d'un push.
en se référant à une table complète des instructions, on sait que cette instruction est suivie directement par une valeur immédiate qui fait 4 bytes. Donc, en l'occurrence, comme on est sur une plateforme Intel, c'est une plateforme Intel bien, donc les bytes sont présentés du byte de voie faible jusqu'au byte de voie fort en dernier. Donc, on se retrouve donc pour coder un push 0.7D4.85 -0.7D4.85 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 -0.7D4. récupère un de ce qui contient l'assemblage.
Donc, juste une petite note, on est passé donc de l'étude du fil d'exécution à la sémantique de l'assembleur. Tout ça est très lié, ça peut paraître détaché, mais c'est très lié parce qu'en fait, on va avoir besoin de l'étude complète du flux d'exécution pour pouvoir justement savoir où est appelée une fonction à chaque fois, par exemple. Donc ça va nous permettre de détourner une fonction quand elle est appelée de tel endroit du processus et de ne pas la détourner quand elle est appelée d'un autre endroit, par exemple.
Donc le format des opérandes, je reviens. Donc, il y a différents types d'opérandes qui peuvent être utilisées. D'une part, donc, les valeurs immédiates, on doit directement mettre une valeur dans un registre quand on passe en mémoire. Ensuite, il y a les registres qu'on utilise. Bon, en l'occurrence, dans la deuxième instruction, le groupe 42 EAX, on utilise EAX désigne le contenu du registre. C'est-à-dire qu'on va stocker la valeur 42 dans le registre. Il y a un autre type d'accès aux opérandes qui est après le référencement à la mémoire. Celui-ci peut être réalisé de différentes manières. Soit en coder directement en dur l'adresse où on désire stocker ou lire une opérande, une valeur. On peut ensuite référencer toutes les adresses mémoire par rapport au contenu d'un registre. C'est-à-dire qu'on va stocker à l'intérieur du registre l'adresse qu'on souhaite accéder et ensuite utiliser ce registre comme pointeur, comme dans la deuxième instruction. Donc en syntaxe ATFD, on utilise des parenthèses pour préciser qu'on utilise le registre en tant que pointeur. Il y a des types d'adressage qui sont plus complexes, qui utilisent comme base un registre et qui vont lui rajouter un offset. Donc par exemple, la deuxième instruction, on va utiliser comme registre de base OBP. Et à partir du moment où on va lui rajouter comme offset 8, ça permet d'adresser notamment tout ce qui est... Dans cette instruction-là, par exemple, ça permettrait d'accéder au premier paramètre d'une fonction. On peut ainsi référencer les variables locales et les paramètres des fonctions. Et il y a un dernier type d'adressage un peu plus compliqué qui utilise plusieurs registres, un registre de base qui va contenir une adresse de base, et généralement ensuite un compteur qui sera multiplié. Ce type d'adressage permet généralement d'adresser des structures plus compliquées ou des tableaux. Donc, afin d'analyser de manière plus fine le flux d'exécution et toutes les instructions de la section de code, on a décidé de séparer en fait les différentes instructions qui étaient présentes dans un programme en grandes catégories d'instructions. Donc la première qui nous semblait importante de séparer, c'est toutes les instructions qui interrompaient le contrôle flow d'une manière ou d'une autre, donc les calls, les jumps.
Juste une petite question, le contrôle flow c'est donc le flux d'exécution.
Donc à partir de là, ce premier groupe d'instructions permet de savoir que lorsque les instructions sont exécutées, à un endroit donné, l'instruction va éventuellement faire passer l'exécution à l'autre endroit du programme. Il y a d'autres instructions qu'on a typées aussi, donc les instructions arithmétiques, tout ça qui effectue des manipulations, addition, soustraction, des déplacements aussi, l'application est considérée comme une opération arithmétique. Nous avons séparé aussi des instructions qui sont liées à l'architecture pour les mettre à part, éventuellement dans le but de pouvoir plus clairement réappliquer un même typage à plusieurs architectures différentes.
Par exemple, le dernier type, le type qui est spécifique à l'architecture, ce sont par exemple pour les appels aux interruptions. Donc sous Linux par exemple, donc pour le Linux, on a l'interruption 80, donc qui permet de passer l'exécution au kernel et de lui demander d'exécuter une fonctionnalité pour nous, c'est-à-dire un appel système. Donc pourquoi on l'a typé? Parce que ça va nous permettre, par exemple, quand on va rencontrer ce type, de lancer notre propre fonction, notre propre handler. Donc on va pouvoir, en quelque sorte, émuler le service que nous rend le kernel plutôt que de lui passer la main. Il faut voir que notre approche est statique. Donc là, on ne peut pas vraiment se permettre de, par exemple, d'exécuter l'instruction et de voir son résultat.
Alors,
Et on a réalisé dans les articles qui sont toutes les instructions qui permettent aussi les accès en lecture ou en écriture à la mémoire. Sur le cette page d'instructions, ça nous a permis de soulever un problème qui était l'accès à la mémoire, qui peut être fait de plusieurs manières différentes par rapport à certaines instructions de l'eau. Pour le même parade de l'eau. Donc, dans cette partie, vous avez présenté comment nous avons effectué l'analyse du flux du programme.
Donc, on va passer par une première étape, en fait, de découpage de blocs. Donc, alors, on définit un bloc comme une série d'instructions qui est exécutée atomiquement, sans branchement, c'est-à-dire, par exemple, des opérations en mémoire, etc. Donc pourquoi on a choisi cette représentation? Parce qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir un système d'environnement local, en fait. Un environnement local qui va se conserver pour toutes les instructions du bloc. Donc, l'analyse de flux, on va voir qu'il n'y a pas seulement l'analyse du flux d'exécution, il y a aussi l'analyse des flux de données. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques, notamment qu'on va appeler le forward tracing et le backward tracing. En français, ça donne le traçage avant et le traçage arrière. On va voir que le forward tracing, ça va nous permettre de déterminer à quel type de variable on a affaire. Par exemple, si on a affaire à un pointeur ou une valeur absolue immédiate. Le backward tracing, au contraire, ça va nous permettre de prédire, de faire ce qu'on appelle de la prédiction de branchement, c'est-à-dire de prédire vers où l'instruction de branchement va fauter. On va voir qu'on a certaines instructions de branchement qui sont directes et d'autres indirectes. Donc les instructions de branchement direct ne posent pas de problème puisqu'on peut évaluer tout de suite l'adresse de branchement grâce à l'opérande de l'instruction. Par contre, les instructions indirectes de branchement, on va être obligé de faire du backward tracing. Parce que c'est par exemple ce sont des instructions qui se font sur le contenu d'un registre ou sur le contenu de la mémoire. Donc c'est une variable dont la valeur va dépendre à l'exécution. Donc on ne peut pas vraiment savoir à quel endroit on va brancher, à quel endroit cette instruction va brancher.
Donc c'était ce qu'on s'en expliquait. Donc, le premier algorithme que je vais présenter est le découpage en blocs d'instructions. Donc pour ça, on effectue un parcours linéaire de toutes les instructions de la section. Et grâce au typage qu'on avait fait précédemment, notamment pour toutes les instructions qui interagissent avec le contrôle flow, on sépare, on va parcourir linéairement les instructions, et dès qu'on effectue une instruction qui interagit avec le contrôle flow, on évite la fin du bloc. A partir de là, une fois qu'on résume la linéaire, on va obtenir un ensemble de blocs. On peut approfondir aussi cette analyse en raisonnement, comme on l'a dit précédemment, toutes les instructions de branchement, qui va nous permettre d'obtenir aussi de nouveaux blocs dans certains que l'analyse linéaire ne nous avait pas révélés. Donc à partir de là, on stocke des blocs sous une forme de liste chaînée qui va nous être possible de reparcourir, soit linéairement pour avoir l'ensemble des blocs, soit en suivant les différentes références qu'on renseigne dans les blocs afin de connaître en fait le chemin qui va être éventuellement que le processus peut suivre lors de l'exécution du programme. Et afin de conserver et de ne pas réaliser cette analyse parce qu'elle est quand même relativement lourde pour des linéaires compliqués, on stocke en fait toutes les informations dans le linéaire en créant une nouvelle section au point de contrôle.
Donc cette section, c'est une section non mappée, donc elle n'influe pas du tout sur le reste du programme et ça nous permet seulement de stocker des informations, donc dans ce cas, de flux d'exécution.
À partir de là, quand on analyse toute la structure de bloc, donc un bloc peut transmettre l'exécution soit au bloc suivant, soit un autre bloc dans la mémoire, parce que là, sa dernière instruction est un call, une instruction de branchement conditionnel, on l'arrête. On a conservé plusieurs instructions dans la structure de bloc, donc le bloc suivant auquel est pensé le flux d'exécution, ou l'autre bloc auquel le branchement est effectué comme lors des calls.
On conserve aussi la dernière, le type d'instruction, le type de la dernière instruction, à savoir un rangement conditionnaire, à la fin de procédure. On conserve aussi en plus une information qui sont pour chaque bloc, toutes les références qui lui font appel. C'est-à-dire que pour un bloc donné, par exemple, on va savoir qu'il a été appelé par N bloc. Donc si par exemple on prend les exemples les plus qu'on prend souvent, c'est par exemple le bloc qui correspond à l'entrée de la fonction même copie. On va pouvoir savoir qu'il a été appelé à un point. Sachant que même copier des fonctions pouvant présenter des vulnérabilités dans l'utilisation, ça nous permet de repérer déjà dans quel endroit du binaire il y a éventuellement des vulnérabilités.
Et tout ça, bien sûr, dans le binaire.
Et donc, à partir de ces blocs, nous avons possible de reconstituer un graphe presque complet des différents chemins qui peuvent être empruntés lors de l'exécution.
Donc ça, la prédiction de branchement, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est dans les instructions indirectes, on ne peut pas savoir statiquement, trivialement, à quel endroit le programme va se brancher. Par exemple, là j'ai mis deux instructions indirectes, vous voyez, le premier call passe par le registre EAX. Donc dans ce cas, le branchement va s'effectuer sur la valeur du registre EAX, à l'adresse de la valeur du registre EAX à ce moment-là. Dans le cas du jump, c'est un peu la même, sauf que c'est un jump dont l'adresse de branchement est déterminée par la valeur de la mémoire à l'adresse de l'opérand. Donc, le problème qu'on a avec ces instructions, c'est qu'on ne peut, même avec la plus fine analyse statique, on ne peut pas forcément déterminer toutes les valeurs que peut prendre la mémoire à un moment donné, ou alors toutes les valeurs que peut prendre le registre. Peut prendre le registre à ce moment-là. Donc, on ne peut pas, par backward tracing, c'est-à-dire par analyse arrière, on ne peut pas déterminer à chaque fois toutes les valeurs. Donc, il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. Toutefois, il y a une méthode dynamique qui est utilisée notamment dans le projet Dynamorio, donc c'est un projet du laboratoire LCS du MIT, il y en a certainement que vous connaissez. Donc laboratory of computer science. Donc la méthode, c'est de mettre un breakpoint sur chaque, c'est-à-dire en point d'arrêt, sur chaque instruction de branchement indirect, puis de faire un single step, c'est-à-dire d'exécuter l'instruction pas à pas, et de voir l'adresse de branchement. Donc ça c'est une méthode dynamique. Hein. Donc il y a une certaine chute de performance à l'utiliser. Et on ne l'utilise pas dans les FSH.
Donc l'étude du groupe de données, c'est la deuxième partie qui nous concerne pour comprendre comment fonctionne un binaire. Donc pour ça, comme vous l'avez dit, il est possible de repérer les différentes allocations mémoire et les différentes actions mémoire qui sont effectuées. Donc dans le cas d'un binaire complet, par exemple avec le support des 4 bits, c'est une méthode utilisée dans tous les compilateurs qui permet de référencer en fait, le gain de la fonction par rapport au registre EBP et ses paramètres aussi. Tous les paramètres de la fonction sont situés en fait en référence positive par rapport à BT. C'est-à-dire BT plus 8, on va trouver le premier paramètre, BT plus 12, le second, et ainsi de suite. Et toutes les variables 4 sont référencées de manière négative par rapport à BT. Donc par contre, dans les cas, on peut compiler aussi un binaire sans support avec les cadres de pile, auquel cas toutes les références aux variables locales et aux paramètres vont être effectuées par rapport au registre OSD.
Juste une petite précision, donc il y a une option en GCC qui permet de faire ça, c'est l'option -F omit frame pointer, que vous devez certainement connaître.
Donc là, le petit symbolique, c'est une méthode qu'on a engagée actuellement pour pouvoir tracer les différents adresses mémoire. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un problème qui se posait, qui était que plusieurs adressages mémoire peuvent être effectués de manière différente en fonction des registres. Donc là on a un petit exemple d'un démarrage de fonction. Donc on a plusieurs instructions et donc c'est avec là c'est sans support de cadre de pile. Donc les variables locales et les paramètres sont lancés par rapport à OSP. Donc la dernière instruction est un move qui met 0 dans le registre. EBX est utilisé comme pointeur en fait pour stocker 0 et l'adresse en mémoire. Quand on regarde le contenu d'EBX à l'instruction précédente, il est référencé par rapport à l'EBP, par rapport à l'ESP. Donc ce qu'on fait, il s'agit Il s'agit ici d'un bloc d'entrée qu'on a découvert précédemment. On sait qu'en entrée du bloc, et pour les entrées, on sait que le bloc ne sera pas interrompu en plein milieu par une instruction de branchement ou par une instruction qui va entraîner le contrôle flow. À partir des valeurs d'entrée du bloc, on peut définir les valeurs de sortie du bloc. Et c'est cette étude qui nous intéresse actuellement. Donc, je ne vais pas détailler parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est un jeu d'équations assez simple qui consiste à remplacer pour. Chaque instruction est remplacée par une petite équation. Donc le sub, on remplace par un ESP qui est égal à ESP moins 110, tout simplement, en hexadécimal. Et ainsi de suite. Donc à la deuxième instruction, en fait, ESP égale ESP moins 4, on va remplacer la valeur dans le nombre de droit ESP moins 4 par ESP, par OLD ESP moins 0,110. Donc à partir de là, en réalisant instruction par instruction, on se rend compte que le dernier adressage permet de stocker 0 dans une valeur qui est référencée par rapport à 1 de plus 4.
On ne va pas détailler parce que ça prendra un petit peu de temps et on est un petit peu pressé.
Donc, le principe ici, c'est de compter que le dernier adressage, qu'on ne pouvait pas réellement définir, est en fait un adressage au premier paramètre de la fonction. Donc c'est le but de ce site d'analyse.
Donc, la SLR, on va voir que la SLR dépend un petit peu. L'efficacité de la prédiction SLR dépend un petit peu de ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est-à-dire de l'analyse des flux de données. On va voir pourquoi. Ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, le problème de la SLR, ce sont les faux positifs. Alors, la SLR consiste à déplacer le binaire en mémoire, c'est-à-dire qu'on va patcher toutes les références à la mémoire, ce qui fait qu'on va pouvoir exécuter le programme autre part. Le problème avec les objets de type OTExec, c'est-à-dire les binaires, c'est qu'il existe un grand nombre d'adresses qui sont codées en dur dans le binaire. Donc on est obligé de les patcher, en fait, d'analyser le programme et de les patcher pour pouvoir exécuter le processus à une autre adresse que celle à laquelle il était destiné. Donc, bien sûr, il faut qu'on remappe les deux tables de base qu'on a vues, c'est-à-dire la SHT et la PHT. Le problème, c'est que certaines valeurs, certains pointeurs qu'on va pouvoir rencontrer, peuvent être des pointeurs valides, c'est-à-dire des adresses qui vont pointer dans l'espace d'adressage du processus, mais vont être en fait des variables. Par exemple, on a rencontré le problème dans SSH, SSHD plus exactement, on a des valeurs H qui sont utilisées, qui sont des pointeurs valides puisqu'ils pointent sur l'espace d'adressage du binaire, mais qui en fait ne sont que des valeurs de H, et donc qui ne doivent pas être mise à jour dans le cadre d'une protection ASLR. Il y a aussi un autre problème, c'est la détermination de pointeurs interprocédurales, c'est-à-dire d'une fonction à l'autre. Par exemple, on peut avoir une fonction qui va stocker les pointeurs dans une liste chaînée, ou dans un graphe, ou dans quelques structures dynamiques, et le pointeur ne va pas être utilisé tout de suite. Donc là, c'est un problème parce qu'on se fie à notre moteur d'analyse de flux de données, et dans le cas d'une analyse intra-procédurale, c'est-à-dire au sein d'une même fonction, il ne va pas pouvoir déterminer que la valeur est un pointeur. Donc par exemple, je vais prendre le cas d'une liste chaînée dans laquelle on va stocker des pointeurs, par exemple des pointeurs sur fonction ou autres pointeurs, et la liste chaînée va être utilisée autre part dans le programme. Donc ça nécessite une analyse sémantique assez poussée pour pouvoir déterminer que les éléments de la liste chaînée qui sont stockés sont des pointeurs et pas des valeurs. Donc on a plusieurs heuristiques d'élimination de faux positifs. Donc la première heuristique, ça va dépendre du type de la section. Donc on sait par exemple que si on détecte un pointeur dans une section qui n'est pas du code, par exemple des sections de relocation, ça c'est arrivé dans LS. Ça ne va pas être en point. C'est-à-dire que c'est un faux positif et on ne doit pas le patcher. Dans les cas plus complexes, donc dans les sections de code, on va devoir faire du forward tracing. Et les heuristiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les heuristiques interprocédurales restent à développer. Ça veut dire que la SLR statique reste un problème ouvert. Pour l'info, on a réussi à faire de la SLR sur tous les binaires de slash bin. Par contre, pour les binaires plus gros, par exemple SSHD, on est toujours en train de travailler dessus parce qu'il y a énormément de faux positifs. Donc on doit développer énormément de heuristiques de détection. Donc un petit exemple de remappage. Donc là, vous pouvez voir que les références sources et les références destinations qui sont trouvées pour chaque section. Donc, bien sûr, les sections de code, c'est-à-dire la section .text, est très riche en références, bien sûr. Tous les calls, les calls à adresse absolue, etc. Donc là, vous voyez un petit peu... Ça, c'est un script tel que ça, vous voyez. On utilise la commande findRel pour trouver toutes les références. On va utiliser la commande remap pour remapper, c'est-à-dire pour updater les références. Et là, on peut voir que quand on imprime le header, on peut voir qu'on a bien changé les références, par exemple, du point d'entrée. De même dans la table des sections. Vous voyez, on a bien changé toutes les références. Et ce qu'il y a, c'est que début. Donc ça marche. Le problème qu'on rencontre avec le remappage des objets ET-exec, c'est que on va être obligé de lancer la procédure ASLR à chaque exécution. Donc c'est pas très intéressant au niveau de la performance. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est la translation d'objets ET-exec en objets ET-lin, c'est-à-dire la translation d'objets exécutables en librairie. Ça va nous permettre d'utiliser un système de randomisation dynamique qui va être refait par l'intermédiaire de l'API système MMAP. Donc par exemple, le projet PAX utilise cette technique. Donc si le relinkage ET-exec en ET-lin s'avère fiable, on va pouvoir utiliser cette protection en cumul de PAX et donc avoir une protection ASLR avec 0% de perte de performance, contrairement à la protection actuelle qui, comme je vous l'ai dit, atteint 200 voire 300% de perte de performance sur des gros processus ou des listes de processus de type recompilation de kernel. Donc on ne va pas entrer dans les détails parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais je vous conseille de voir le papier parce qu'il y a beaucoup de détails et donc à mon avis vous en aurez pour votre argent. Donc là on va passer à une autre problématique. Donc on a fini avec l'ASLR, on va parler de résidence. La résidence donc c'est d'ingénier une code supplémentaire dans un binaire. On va voir que les techniques de base donc, sont les techniques à base de code indépendant de la position. Donc ça va être des codes assembleurs qu'on va compiler et qu'on va s'arranger pour qu'ils ne contiennent pas de référence absolue et donc qu'ils puissent s'exécuter partout. Donc le premier code, c'est celui de Silvio César avec le virus CILF. Qui utilise la technique... Le premier code ELF, hein, on s'entend, parce que bien sûr la technique de code position indépendante est utilisée depuis des lustres. Mais le premier virus comique qui utilise cette technique, à ma connaissance, c'est celui-ci de César. Donc pour la résidence, on va voir que le bourrage le padding, c'est-à-dire le bourrage en français de section, qui est de maximum 3 octets, on ne peut pas l'utiliser, parce que ça serait à peine suffisant pour coder la fonction de branchement qui va brancher sur le padding de la section suivante. Donc on ne peut pas utiliser le padding de section. Par contre, on peut utiliser le padding de segment qui va jusqu'à une page. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, nous, c'est, dans le cadre d'une analyse et dans le cadre d'une implémentation fiable, c'est qu'on va rajouter des sections et on va s'arranger pour que les deux perspectives restent synchronisées. C'est-à-dire la perspective par section et la perspective par segment. Donc là, on peut voir une injection de section non mappée. Vous voyez, elles sont en des étoiles. Donc la première, c'est une section non mappée. Ensuite, on a une injection post-VSS, donc c'est une injection de section qui permet notamment d'injecter des données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir la section VSS physiquement dans le fichier. Rappelez-vous, on a dit qu'on avait calé des packs dans le fichier, puisque c'était la section des données non initialisées. Ou encore, l'injection pré-inter. Donc ça, c'est une injection qui permet d'injecter du code sans être détecté par des connexions de type PAX, parce qu'en fait, on étend l'espace d'adressage de telle manière que le code est exécuté dans les zones exécutables et les données sont mises dans les zones de données. Donc ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode intéressante, c'est la résidence par la section dynamique. Alors la section dynamique, c'est une section spéciale qui permet au noyau et notamment à l'éditeur de lien dynamique de connaître toutes les adresses de table. Donc en l'occurrence, ce sont des adresses qui correspondent à des adresses de début de section, mais comme la table des sections n'est pas obligatoire pour lancer le binaire, on a besoin de cette section qui correspond au segment PT en densité harmonique. Rappelez-vous, on a dit que les binaires avaient une double perspective et que ce sont les mêmes données qui sont indexées par la double perspective. Donc ce qui m'intéresse particulièrement dans ce cadre, ce sont les entrées DT nibid. Alors les entrées DT nibid, vous voyez, notamment les deux premières, ce sont les dépendances aux librairies. Et les dépendances aux librairies, donc, qui sont basées sur seulement quelques objets. On peut voir aussi une entrée de type DT debug, et c'est une entrée qui est utilisée par GDB, et qui n'est pas obligatoire. Donc là, vous, à l'index 9, vous pouvez l'avoir. Et on va en fait patcher cette entrée, qui est disponible dans la majorité des binaires, mais pas tous, parfois pas tous. Donc, soulignez que je n'ai pas trouvé un binaire qui n'avait pas d'entrée DT debug. Donc on va remplacer cette entrée DT debug par une entrée DT nibid. Donc on va rajouter une dépendance au binaire. De même, les entrées DT nibid, les premières entrées sont prioritaires. C'est-à-dire que pour la résolution de symboles, donc pour la relocation, on va utiliser d'abord la table des symboles des premières entrées DT nibid. Ça veut dire que si on swap deux entrées DT nibid, on peut donner une priorité plus grande à la librairie. En l'occurrence, si on change l'entrée DT debug, on va s'arranger pour que, par exemple, l'entrée de la liberté soit à la place de l'entrée DT debug. Et on va mettre notre propre entrée DT nibid en premier, ce qui fait que nos symboles vont être prioritaires. Un autre, on va conclure bientôt parce qu'on nous dit qu'on est pressé. Donc ça c'est une autre méthode, donc vous inquiétez pas, il y a 5 slides. Ça c'est une autre méthode dans le cas où l'entrée DT debug n'est pas disponible. On va injecter carrément un code d'objet relogeable, c'est-à-dire un point O, dans un exécutable. Donc on va coder notre cheval de 3 en C, on va le compiler et on va l'injecter. Donc j'ai déjà cité SSH tout à l'heure. Donc si vous voulez des détails sur cette injection, vous irez voir le papier qui est assez détaillé sur ce point. Pour finir, on va présenter le modèle FSH. Donc c'est un modèle qui est orienté objet. Donc c'est codé en C, mais c'est orienté objet. Donc j'admets qu'il y a un petit paradoxe, mais en fait, il y a beaucoup plus de codeurs C, étant donné que le shell est basé sur des librairies C. On s'est dit que l'outil et les librairies seraient beaucoup plus utilisés si c'était codé en C, que si c'était codé en C++, par exemple. Donc on a plusieurs hiérarchies d'objets, tout ça, tout le détail est expliqué dans le papier, on ne va pas détailler tout de suite puisqu'on a un peu de passé. Donc, un petit dump, pour montrer que c'est un modèle ouvert, vous voyez, là on a plusieurs commandes, donc ça c'est un dump FSH. Vous voyez que là on appelle la commande print, et une commande qui n'existe pas au départ. Ensuite, on va loader un module FSH, donc c'est un format dont on a refait un, où on va pouvoir injecter ou rajouter des commandes pendant qu'on est en train de faire une session FSH. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut détourner des commandes ou en rajouter, voire en retirer. Donc c'est un modèle très ouvert qui peut être étendu très facilement. Dernier slide. Un petit module pour vous montrer que c'est bien ouvert. Ça c'est le module, c'est celui-ci, vous voyez. Ça c'est le module qui a généré ce script, qui a généré ce dump plutôt. Donc on a des handlers simples de nouvelles commandes. Et vous voyez que, un peu comme le module kernel, on a deux handlers, un d'initialisation et un de destruction. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une API interne à FSH, qui va nous permettre, donc, VM en underscore set commande, qui permet de détourner une fonction du shell. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas satisfait d'une fonctionnalité, vous pouvez faire votre propre fonctionnalité avec la même commande, qui va vous permettre, par exemple, de garder les mêmes scripts, et de ne pas avoir attaché 10 000 scripts alors qu'il y a une commande qui ne vous satisfait pas. De même, VM en entrée ACMD et VM en entrée DLCMD, qui vont permettre d'ajouter des commandes et d'en retirer. On finira par la référence. Donc c'est assez explicite. Hein. L'URL du projet FSH, c'est dll.org/projet/FSH. J'aimerais spécialement remercier le crew DH, notamment la division Belgique qui se trouve dans la salle, ils se reconnaîtront, qui a fourni le matériel, notamment la voiture, pour venir à la conférence. Également, on a des graphes visuels qui sont dumpés en PS. Donc si on a 2 minutes, on va en monter un, ou pas ? D'accord, bon, on va faire rapidement, on va vous montrer un graphe assez simple. Hein.
Pas plus d'une minute,
on le dit. Donc c'est un graphe assez simple, on a des plus complexes avec des graphes qui détectent les boucles, etc. Des graphes à boucles. On utilise Graphics des labs ATT. Donc c'est un software qui permet de représenter graphiquement, par exemple, le flux d'exécution d'un programme en lui donnant toutes les informations de blocs et les informations de liens entre les blocs. Donc c'est très très beau. Un petit graphe pour finir.
Donc en attendant, si vous avez une ou deux questions, c'est pas juste.
Ce n'est pas mon laptop.
Des questions ?
Des questions ?
Je veux juste savoir si vous avez essayé d'analyser des wrappers de S, genre Burnite ou
juste. Oui, ouais, on a reconstruit par exemple ce genre de logiciel détruit la table des sections par exemple. On va la reconstruire. On va reconstruire la table des sections. Sinon, on va avoir un graphe du code de Burnite effectivement. On ne doit pas l'avoir ici, mais si jamais vous êtes intéressé, bien sûr. Donc ça, c'est un petit graphe tout simple. Hein. C'est vraiment une fonction de base. On a peut-être dû en prendre un peu mieux. Donc ça, c'est le genre de graphe intra-procédural qu'on va générer à partir des informations de bloc. Donc ça, vous comprenez que c'est quand même bien utile pour analyser le programme sur la source. Donc, chaque fonction va avoir une telle représentation. On a également un système de graphes plus high level qui va lui grapher les fonctions et non pas les blocs pour chaque fonction.
Très bien, je pense.